Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Alain Bernard.
Bonjour à tous, je m'appelle Alain Bernard et je suis champion olympique du 100 mètres nage libre. J'ai été l'homme le plus rapide du monde et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team et des grands champions. Et aujourd'hui, nous sommes, vous l'avez reconnu, avec Alain Bernard. Salut Alain.
Bonjour, bonjour.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, tes moments difficiles aussi, tes cicatrices. Il y en a peut-être quelques-unes. L'homme que tu étais, l'homme que tu es devenu également. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Avant de débuter, comment te sens-tu, Alain ?
Je me sens bien et puis voilà, j'ai une petite appréhension, une certaine nostalgie parce que j'ai eu la chance d'avoir jusqu'à présent une vie extraordinaire, une vie palpitante, une vie épuisante parfois, pleine de doutes, pleine de rebondissements, mais pleine de partage et c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à faire et merci pour ce moment, de cette invitation, pour pouvoir vous partager, j'espère, quelques confidences qui vous serviront peut-être à vous aussi dans la vie de tous les jours.
Quelle vie de champion et quelle vie d'homme. On va vérifier ça tout de suite dans la boîte à souvenirs. Je t'invite à tirer un premier papier.
Donc c'est parti. Le premier papier, alors que je tire. Ah, Aubagne.
Aubagne.
La c'est ville de Marcel Pagnol. Et c'est ma ville natale. Ah, les cigales. Ben voilà. Oh, vous arrivez à nous téléporter comme ça?
Ah non, mais c'est pas un bruit radio. Il y a vraiment des cigales dans le studio RMC. Ah,
non, mais j'ai dû m'asseoir dessus. Non, Aubagne.
C'est ton lieu de naissance?
Mon lieu de naissance, mon lieu de tous mes débuts, de mes débuts, ma famille, mon apprentissage de la natation, ma passion pour la natation, mais des très très beaux souvenirs.
Alors c'est là que tu vas débuter la natation, pas par passion au début, juste parce que c'est pratique.
Parce que c'est pratique, parce que c'est sécuritaire, surtout nos parents avec mes deux grandes sœurs en fait nous mettent dans l'eau le plus tôt possible pour qu'on soit en sécurité si jamais on va chez des amis qui ont des piscines ou dans des à la mer ou au lac ou peu importe. Qu'on soit à l'aise dans l'eau en premier lieu. Et là, on y reviendra, j'espère, un petit peu plus tard dans l'émission. Ça fait partie de mes combats aujourd'hui.
De tes engagements, forcément, et tu as bien raison, c'est une noble cause et c'est très important de le rappeler à tous les parents et à tous les enfants. La natation, ça, quand même, ça devient vite une passion. Vite, tu te sens bien dans l'eau.
Alors oui, je me sens bien parce que je sens que c'est un moyen d'expression qui est équitable. C'est-à-dire, les conditions d'entraînement et de compétition surtout sont les mêmes. Le bassin fait la même longueur pour tout le monde, il a la même température. Il n'y a pas de conditions de jugement en fait par un juge et c'est le chrono qui parle. Donc en fait, c'est ce sentiment d'équité qui me fait aimer ce sport en fait.
Les mêmes conditions pour tout le monde. C'est marrant de voir le sport comme ça aussi.
Oui, ben parce que, alors sans aucun jugement, mais sur une épreuve de gymnastique, de natation synchronisée ou de descente de ski à un super G, en fait, tu peux avoir des conditions climatiques qui changent ou tu peux avoir un juge qui va te donner une meilleure note qu'un autre. Et finalement, c'est un jugement objectif qui n'est pas à la hauteur parfois de ton niveau de performance.
Alors, la piscine, ça te va bien aussi parce que tu es quelqu'un de timide, réservé, voire complexé, Alain Bernard.
Carrément. Ouais, je suis complexé parce que je suis très grand par rapport à mes copains. Je fais une tête de plus que tout le monde. Donc déjà, dès la maternelle, enfin, pas la maternelle, on va dire vraiment le primaire, je fais une tête de plus, donc je passe moins inaperçu. Je m'assume pas dans mon corps parce que je suis très mince, très longiligne. Et le fait d'être dans l'eau, c'est un moyen d'expression où on est de toute façon tous en maillot. Et puis il y en a qui sont un peu plus forts, d'autres un peu plus maigres comme moi. Et voilà, chacun sa morphologie, chacun l'assume.
On va écouter Sandrine, l'une de tes deux sœurs, qui se souvient évidemment du garçon timide que tu étais, mais pas seulement. Sandrine.
J'étais assez timide et réservée, c'est vrai, parce que, comme vous avez dit, c'était le dernier de la fratrie et qu'on était, même parmi les cousins et tout, c'était le plus petit, le dernier. Donc, il a été un petit peu... il s'est senti des fois un petit peu seul, on va dire. Parce que, avec deux filles, nous, on avait souvent tendance à vouloir le grimer en fille et ça l'agaçait un peu, donc il préférait rester en retrait et s'amuser avec ses propres jouets.
C'est exactement ça. C'est un peu cette démarche solitaire, j'ai envie de dire, et puis prendre plaisir à jouer tout seul, à... parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, on avait une maison de famille dans les Hautes-Alpes où on partait tous les week-ends et toutes les vacances. Donc, en fait, quand j'étais à la campagne, je passais mes journées sur les tracteurs, sur les engins agricoles des voisins, des paysans d'à côté. Et le reste du temps, ben, je m'amusais à marcher dans la forêt, à faire de la cueillette, et, je sais pas, du bricolage. Et finalement, c'est un truc assez solitaire, quoi.
Ouais, et mettre des robes, c'était pas trop.
Et non, et en plus, voilà, heureusement qu'il n'y a pas de photos. Mais ouais, mes sœurs me déguisaient en fille, en fait.
T'as de la chance que c'est de la radio, surtout. On va écouter maintenant un ami d'enfance, Benjamin, qui se souvient de ce côté complexé, parce que tu l'as dit, tu étais très grand et déjà petit. Benjamin.
Je crois qu'on s'est rencontrés, on devait avoir 8 ans. Alors petit, il n'était pas petit déjà. Il a toujours été grand. Mais c'est vrai que c'était un garçon qu'on n'en entendait pas parler. Il était calme, réservé, mais il a jamais été petit. Hein. Je me souviens, on a fait nos premiers podiums régionaux ensemble. On devait avoir 8 ou 9 ans à La Ciotat. Il était sur la deuxième marche du podium. Il était déjà aussi grand que le premier, hein, qui était sur la première marche.
Benji, ça fait plaisir de l'entendre. C'est un super pote. Merci Benji pour ce témoignage. Oui, et un jour il m'a sorti une anecdote. J'ai adoré, je la retiens toujours. Il me dit Alain, j'ai compris pourquoi on fait 21 cm d'écart parce que je suis né 21 jours après toi. Et en effet, il est né le 21 mai, moi je suis né le 1er mai. Et ouais, il a raison, c'est ça.
Alors tu n'es pas bon tout de suite en natation, tu fais des compétitions dans le club d'Aubagne. On va dire, entre tes 13-18 ans, t'es pas le meilleur.
Ah non, loin de là. Mais même jusqu'à 25 ans, je suis pas le meilleur. J'ai certaines qualités, je me plais à progresser, à m'entraîner, etc. Mais non, franchement, je suis pas extraterrestre, loin de là.
Tu es né en 1983, le 1er mai, tu l'as dit, et en 2000, tu as donc 17 ans. C'est le premier tournant de ta carrière. Tu vas intégrer le prestigieux Cercle des nageurs de Marseille. Et là, tu vas faire la rencontre. La rencontre. Tu peux nous en parler ?
Bien sûr. Bah, la rencontre, c'est le fait d'intégrer le Cercle des nageurs de Marseille. Il faut savoir quand même qu'il y a Marseille et les petits clubs aux alentours dans la région. C'était le club un peu recruteur qui recrutait les meilleurs éléments des petits clubs qui ont été formés. Donc moi, j'ai été formé à Aubagne et j'étais très fier de l'être. Et si j'avais habité Marseille, j'aurais peut-être commencé à nager au Cercle des nageurs de Marseille. Encore une fois, c'est la situation géographique qui m'a amené à faire ça. Et j'ai décidé de rejoindre le Cercle des nageurs de Marseille pour pouvoir bénéficier d'un entraînement de haut niveau, des horaires aménagés en fait pour pouvoir m'entraîner deux fois par jour. Parce que depuis un an et demi, deux ans et quelques, on essayait avec quelques parents des nageurs d'Aubagne de faire bouger des choses dans des collèges en fait pour avoir des horaires aménagés pour nous permettre de nager deux fois par jour et progresser, parce que voilà, la natation est un sport très chronophage, mais encore faut-il avoir les aménagements spécifiques pour cela. Et le Cercle des nageurs de Marseille a proposé justement une filière sport-études avec laquelle je suis parti avec un copain d'entraînement, et c'est là où j'ai rencontré, j'y arrive, Denis Auguin, mon entraîneur que je n'ai plus quitté.
C'est la personne d'une vie ?
Oui, c'est la personne d'une vie, parce qu'on match sur des valeurs... Franchement, le premier truc, c'est qu'on matche vraiment sur des valeurs. Moi, je suis un peu foufou, il faut me canaliser à 16-17 ans. Et en fait, il va me montrer la voie de cette rigueur-là.
C'est la rencontre d'une vie pour toi, Denis Auguin. Est-ce que tu penses qu'il estime la même chose, te concernant ?
C'est difficile, mais je pense que oui. Je pense qu'on s'est changé la vie l'un l'autre.
Bon, je t'ai posé une question de savoir si Denis Auguin pensait la même chose de toi. Je suis vraiment désolé de te dire que pas du tout. Pour toi, t'es pas du tout la rencontre d'une vie. Je blague évidemment, Alain Bernard. On écoute Denis Auguin.
Professionnellement, et même plus que ça, plus que professionnellement, mais c'est évidemment pour ma part aussi une rencontre unique dans une vie. Hein. Ça, c'est évident. Bah, c'est celui qui permet de vous exprimer dans votre métier de façon incroyable, parce que j'aurais pu être l'entraîneur que je suis et pas avoir champion olympique, hein, parce que malgré tout, il faut être honnête, il faut aussi avoir des athlètes capables de le faire, même si Alain n'était pas de quelqu'un de très doué à la base, mais c'est par contre quelqu'un qui avait des qualités autres, exceptionnelles, et dans ma vie professionnelle, c'est la plus grande rencontre, mission.
C'est émouvant. c'est très émouvant. Et justement, Denis, voilà, il a toujours été là et je serai toujours là pour lui. Il est à ce moment même où on se parle aussi dans un tournant dans sa carrière où il va prendre des responsabilités importantes au sein de la Fédération française de natation pour construire une équipe performante pour Paris 2024 et Los Angeles 2028. Il va beaucoup nous manquer au Cercle des nageurs d'Antibes. Et on va rester en contact, il n'y a aucun souci. Et il avait fait c'était mon témoin de mariage l'année dernière. Il nous a fait un discours, mais je pense que tous nos invités étaient aussi émus que moi.
Et puis ensuite, une autre relation s'est nouée. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. En tout cas, nous avons appris une chose, l'autobiographie d'Alain Bernard. Ce sera donc durant cette année 2021 et on a hâte de la découvrir. Alain Bernard est avec nous sur RMC. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs. Avec toi, Alain.
Allez, un nouveau papier. Ah, Saint-Raphaël.
Saint-Raphaël. Ça te rappelle quoi, ça ?
Saint-Raphaël, Il y a Vanessa Paradis à Saint-Raphaël. Oui, elle n'est pas loin. Elle habitait pas loin. Le plan de la tour, oui.
En tout cas, l'album est sorti et cette musique très connue est sortie en 2007. Parce qu'on va parler de juin 2007. Oui, j'imagine que ça te rappelle de beaux souvenirs.
Juin 2007, championnat de France de natation. Assez exclusif cette année-là. C'est en fin d'année. C'est après les championnats du monde. C'est la première fois pour moi dans l'histoire de la natation. Les championnats de France ont lieu après des championnats du monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas qualificatifs. Néanmoins, on est à J-1 an des Jeux Olympiques de Pékin. Et puis je claque les deuxièmes meilleures performances mondiales de tous les temps sur le 50 mètres et 100 mètres nage libre.
Tu as 24 ans et autant vous dire, chers auditeurs, 2007-2008...
Grand cru classé, comme on dit.
Ah oui, pour Alain Bernard qui va gagner toutes les courses. Alors tu le disais, lors de ces championnats de France, sur 50 mètres, tu vas réaliser la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps. Deux jours plus tard, tu vas battre le record de France du 100 mètres, devenant le deuxième nageur le plus rapide de l'histoire. Tu marques un grand coup. Les gens, la natation mondiale te connaît. Les regards changent sur toi, clairement.
Oui, à partir de ce moment-là, les regards, ils commencent à se braquer un petit peu plus. Maintenant, ça fait tellement d'années que je travaille à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de s'imbriquer. Et je l'explique souvent comme ça, c'est un peu comme un puzzle en 3D, en fait. Quand Denis m'apprend à faire certaines choses, je suis capable d'avoir ma petite pièce. Et puis, 2007-2008, ça y est, je suis en train de construire mon puzzle, là, comme ça, sur un point d'équilibre assez instable. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui me réussissent. Et que j'avais du mal à concrétiser auparavant.
Benjamin, ton ami d'enfance, se souvient très bien de Saint-Raphaël.
Effectivement, Saint-Raphaël, il a vraiment pris conscience de son potentiel. Je dirais que à ce moment-là, il prend vraiment conscience de son potentiel quand il nage aussi vite au championnat de France. On est tous un peu sur le cul. Mais je crois que de réussite en échec, il s'est construit comme ça. Je dirais qu'il s'est construit comme ça.
C'est exactement ça. Merci Benji encore une fois pour ce témoignage. Mais c'est là où je me dis, bon, je veux pas me qualifier aux Jeux Olympiques. Je veux devenir champion olympique. C'est en fait mon échec 3 ans avant. Et quand il parle d'échec, il y en a eu beaucoup dans ma carrière. C'est un échec de qualification aux Jeux Olympiques d'Athènes.
On en reparlera dans quelques instants.
Mais en fait, voilà, Je suis conscient que voilà 48-12 à ce moment-là c'est 48-12 c'est comme si aujourd'hui il y a un nageur qui nage 47-0 47-2 en fait c'est une des meilleures performances mondiales de tous les temps. Je parle de ça il y a 12 ans 13 14 ans je vais y arriver. Donc voilà je prends mesure en fait de mes capacités, ce que Denis a en tête déjà depuis 3-4 ans qui lui sait que je suis capable de faire ça.
Et tu prends une décision, tu décides avec ton entraîneur Denis Hauguin, vous décidez de vous entourer, car c'est le début des sollicitations Saint-Raphaël. Ton ancien agent Robert Leroux, on va l'écouter.
Autant dire que la période, on va dire fin 2007 jusqu'à mars 2008, on est un petit peu dans la gestion pépère. Voilà. Moi, je mets en place. Une sorte d'organisation qui me permettait notamment d'avoir une gare de triage. Et cette organisation, heureusement qu'elle était en place, parce qu'après, effectivement, avec Eindhoven, ça a fait boum, quoi.
Eindhoven, ça a fait boum. On en parle dans une seconde. Mais juste avant, ce n'est pas toi qui prends cette initiative. Hein. C'est Denis Hauguin qui te présente les frères Leroux. Et il dit... falloir qu'on fasse quelque chose parce que je sens qu'on est en train d'exploser. Quoi.
Exactement. Denis me dit, je suis pas agent, je suis entraîneur. Je reçois des appels des journalistes tous les 4 matins pendant l'entraînement. Après l'entraînement, il me dit, c'est pas mon métier. Maintenant, je connais quelqu'un qui est honnête, qui est très bien, qui est bien placé, qui a un bon carnet d'adresses et qui a fait de la natation. Et son frère a fait de l'escrime à haut niveau. Il a été médaillé olympique. Donc Robert Leroux, qu'on vient d'entendre, mon agent, était médaillé olympique, donc ils connaissent tous les deux le sport de très haut niveau, et pas le sport le plus populaire, enfin, soit l'escrime ou la natation. Et finalement, c'est ça qui m'inspire confiance, en me disant, si ce sont des amis à Denis, excuse-moi. Les amis de Denis, il n'y a pas de raison que je me méfie d'eux, parce que voilà, le monde des agents, des avocats, etc., il n'est pas forcément très bien perçu, surtout qu'il y a l'expérience de quelques... On est à 3 ans à peine de la mauvaise expérience, par exemple, de Laure Manaudou qui s'était fait escroquer aussi par un ancien avocat. Donc, moi, je me dis, mais attends, Denis, tu me parles d'un avocat, d'un agent, je fais de la natation, pourquoi tu me parles de ça? Et oui, j'en ai très vite pris conscience, et heureusement qu'on a créé cette structure.
2007, donc, comme le dit Robert Leroux, on est pépère, parce que oui, il y a Saint-Raphaël, mais... On va dire que les sollicitations sont là, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. 21 mars 2008, c'est le début du phénomène Alain Bernard. Demi-finale du 100 mètres des championnats d'Europe d'Eindhoven. Et Robert le dit, à partir de ce moment-là, et ce jour-là, ça fait boum.
Allez, c'est un moment important là pour les Français. On espère que les deux, Alain Bernard et Fabien Gillot, vont rentrer dans cette finale du 100 libre. C'est parti, Alain Bernard, ligne numéro 4.
Très bon départ, de vrai dans le croate comme d'habitude.
Oui, les bouges. Et Bernard est déjà revenu à hauteur du croate. Alain Bernard qui accélère, qui passe en tête.
Il est en train de faire un énorme chrono.
On va surveiller, surveiller le chrono. Il accélère encore, Alain Bernard. Une longueur d'avance pour Darlonga. Alain Bernard qui est parti pour réussir un chrono d'exception. Et il va toucher en 45 ans.
C'est marrant, dans ce commentaire, on entend les journalistes qui parlent d'un nageur qui s'appelle Duje Draganja, qui est un nageur croate, qui était demi-finaliste à l'âge de 17 ans aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et moi, à 17 ans, j'étais un gamin. Je me disais, mais ce mec, il est demi-finaliste au jeu. Et là, je me retrouve donc quelques années plus tard à nager avec lui, contre lui, et surtout devant lui, en fait. Et donc là, voilà, ce fameux cube que je t'ai parlé tout à l'heure, où il y a tout qui s'imbrique, et ben là, on est sur une course quasiment parfaite. Enfin, j'arrive à tenir une course du début à la fin, de A à Z, à bien maîtriser. Et ça passe de 48-12 à 47-60.
47-60. Là, c'est l'accomplissement d'années de travail, de 10 ans de travail pour toi.
C'est 95% de 10 ans de travail, parce qu'à ce moment-là, on est le 21 mars. Il reste une échéance un mois plus tard pour me qualifier aux Jeux. Et quelques mois encore plus tard, les Jeux Olympiques de Pékin. Donc, c'est super. J'explose, je rage, je suis assez démonstratif. Mais intérieurement... Je sais que je marque énormément de points en fait face à mes adversaires, mais je sais que le job n'est pas fini quoi.
Le job n'est pas fini, tu le disais, c'est la particularité de la natation. Pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, ça ne passe pas par les championnats d'Europe que tu vas remporter à Eindhoven. D'ailleurs, on entendait la demi-finale, mais en finale, tu vas encore battre le record du monde et tu vas évidemment obtenir la médaille d'or. Mais il y a les championnats de France pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, on en reparlera évidemment. Et là, ce jour-là, 21 mars 2008, c'est vraiment le début des sollicitations et tu vas t'en rendre compte en rentrant en France. Tu as la médaille d'or autour du cou, tu es champion d'Europe. Robert Leroux se souvient très bien de ce moment.
Je suis allé le chercher à Roissy. Et en chemin, j'ai la bonne idée d'appeler la police de l'air et des frontières en disant, mais écoutez, voilà, il y a Alain Bernard qui arrive. Est-ce qu'il y a un dispositif de prévu? Et ils me disent non. Et donc, je fais mettre en place un cordon de sécurité, bien m'en a pris parce que les gens se piétinaient, moi j'ai pris un coup de caméra. Il a fait Canal ce soir-là, il a fait le grand journal à Canal, malgré le pressing du 20h de TF1. J'ai trouvé que c'était pas une bonne idée, le mettre au grand journal avec Deniso, c'était quand même plus souple.
C'était exactement ça, et puis en fait là c'est je découvre un monde à ce moment-là en fait qui va être assez compliqué à gérer, la médiatisation. Mais juste avant, en fait, je disais le 21 mars, en fait, je rentre dans ma chambre le soir, en fait, avec mon collègue d'entraînement, et on m'appelle sur mon portable. Bonjour, monsieur Bernard, c'est l'Élysée, le président de la République veut vous parler. Et là, je suis dans ma chambre, face à ma fenêtre et tout, je m'en souviens comme ça, il faisait nuit. Et là, le président Nicolas Sarkozy qui m'appelle, qui me dit oh, félicitations, je suis vraiment très fier de vous, la France est fière de vous. Et il me rappelle le lendemain quand je rebats le record du monde. Donc voilà, là déjà il y a un petit aperçu. Et en effet, en rentrant en France, je me dis je fais un sport individuel. Je suis pas une équipe quand même. Je rentre, je vois Robert Leroux pour la première fois parce qu'on ne s'était eu que par téléphone, mon agent. Et là, en effet, il y a une cohorte de journalistes, de fans, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais de soutien en fait à 200-300 personnes qui m'attendent à Roissy. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ben là, tout le monde me met déjà champion olympique, alors que je suis même pas qualifié. Enfin, c'est ça un peu qui est difficile à gérer. Le retour à l'entraînement deux jours après, ça a été assez tendu, quoi. Enfin, j'étais encore sur mon nuage, etc. Et Denis m'a vraiment fait comprendre qu'il n'y a rien qui était fait.
Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de la boîte à souvenirs avec notre champion du jour, Alain Bernard.
RMC, la boîte à souvenirs.
Alain Bernard.
De retour dans la boîte à souvenirs avec Alain Bernard, notre champion olympique du 100 mètres. À Pékin en 2008, Alain, un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs.
Ah, ben oui. 8 centièmes.
8 centièmes.
Qu'est-ce que c'est, ces 8 centièmes?
Bah, je sais pas, tu vas me le dire. C'est quoi 8 centièmes? Oh, ça, je pense que tu le sais.
Ah, ben oui, je pense qu'on le sait tous. 8 centièmes, c'est ce qui nous sépare du titre olympique du 4x100 mètres nage libre face aux Américains en finale du 4x100 mètres.
Tu vas être champion olympique et on en parlera, j'imagine, forcément dans cette émission dans quelques instants. Ce sera le 14 août 2008. Mais avant, dans ta carrière, il y a le 11 août 2008, trois jours auparavant, le célèbre relais 4x100 mètres composé de Frédéric Bousquet, Fabien Gillot, Amaury Levaux et donc toi, Alain Bernard. Tu es le quatrième relayeur, le finisher. Frédéric Bousquet te lance en première position. Il reste 50 mètres. Tu es devant, Alain Bernard.
Il y a de la nitroglycérine sur le plot de départ. Le record du monde va être pulvérisé dans cette course. Et Amaury Levaux qui est parti en tête. Et c'est Fred Bousquet qui va transmettre à Alain Bernard. Allez Alain, c'est qui le patron? C'est celui qui va s'élancer maintenant. Et les Français qui sont en tête devant les Américains, devant Jason Lézac.
Avec encore un super relais pour Bousquet. On pense que maintenant, ça ne devrait pas échapper aux Français. Il suffit que Bernard fasse marcher sans son 100 mètres comme d'habitude. Son talent qui ne s'affole pas, qu'il vire bien. Je ne vois pas aujourd'hui comment les Français ne pourraient pas être champions olympiques du 4x100 mètres nage libre.
50 mètres, les plus beaux 50 mètres peut-être de la natation française. 15 mètres, Alain Bernard qui va offrir aux 4 mousquetaires français le troisième titre olympique de la natation française. Alain Bernard et Jason Lézac. Et à l'arrivée, la victoire pour les États-Unis. Il a fallu rien du tout à la France.
Rien du tout à la France, mais beaucoup, tellement, tellement.
C'est rien du tout et c'est beaucoup. Et voilà, en fait, cette course, on peut la tourner dans tous les sens. Je pense que malheureusement, c'était écrit comme ça. On était vraiment les meilleurs sur le papier. Il n'y a rien à dire. Les États-Unis, je crois, n'ont jamais été battus sur le relais 4x100 mètres nage libre jusqu'à présent, hormis par l'équipe d'Australie en 2000. Et moi, en fait, je m'élance dans cette course. Mais on va revenir un petit peu après sur les moments d'avant qui ont été déterminants.
Exactement.
Je m'élance dans cette course, c'est ma première finale au jeu. J'ai pas fait les séries, en fait j'étais économisé pour les finales.
C'est la première fois que tu mets le pied dans la piscine aux Jeux Olympiques.
En situation de compétition.
Bien sûr,
en situation finale. De compétition, bien sûr, on est arrivé avant pour l'entraînement, etc.
Bien sûr, mais c'est la première fois.
Mais c'est la finale. On me donne le relais en avance sur les Américains, 2 minutes 30 avant, il y a Eamon Sullivan qui bat mon record du monde, qui enlève 25 centièmes. Enfin, ou 20, 23, je sais plus combien. Donc voilà, c'est un peu tendu. Je pars à fond. En fait, c'est facile, je pars à fond. Le record du monde à ce moment-là de la compétition, c'est 21-28 sur le 50 mètres nage libre. Au virage, avec le départ lancé, on enlève souvent 4-5 dixièmes, je passe 21-28, c'est-à-dire à peine un centième plus lent que le record du monde du 50 mètres, mais à moins avec le virage et tout ça. Et sur le retour, en fait, il y a ce fameux nageur américain, Jason Lezak, qui me remonte, et qui va toucher devant moi pour 8 centièmes de seconde. Et en fait, là, les 15 derniers mètres, j'ai l'impression que la piscine est en train de se vider. En fait, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Et je vais avoir un sentiment de culpabilité à tel point que j'irai vomir, en fait. J'irai vomir après les zones mixtes et tout ça. Je fais un rejet, en fait, total, jusqu'au moment où je découvre mon chrono, en fait. Et quand je découvre mon chrono, je me dis, mais j'ai nagé 46, 79, 73, je sais plus.
Ce qui est énorme.
C'est mon meilleur temps que j'ai jamais fait, de plus de 3, 4 dixièmes. Je me dis, mais combien il a nagé, le mec à côté, là, Jason Lezak? Ben, il a nagé 46, 06 ou 04. Donc lui, il nageait 47,70 ou 47,80 en fait. Il a été touché par la grâce de tous les dieux à ce moment-là, dans ce bassin, sur ce timing-là, contre moi. C'est pas possible.
Tu sais comment, tu te souviens comment ça se passe, ta première réaction, Nelson Montfort, forcément, au bord de la piscine, tu te souviens? T'arrives à te,
ou c'est, bah, trop c'est noir. Plus, non, c'est la réaction des gars, en fait, que je me souviens avant même les journalistes et tout. C'est les gars, Maury, Fabien, Fred. Voilà, je voulais tellement leur offrir ça, en fait, nous offrir ça, que Fred me réconforte assez rapidement. Il arrive assez rapidement à relativiser le contexte. Il dit, les gars, on est vice-champion olympique, c'est jamais arrivé, etc. Mais malgré tout, ouais, derrière, ça va être un peu plus tendu quand on va refaire le fil, en fait, de cette course. Et justement, les positions de nage qui ont été déterminantes, où j'étais censé partir deuxième ou troisième et Frédéric Bousquet quatrième, où l'on apprend ça une heure et demie avant la course.
Ça, c'est fou.
Et voilà.
C'est pas prévu comme ça. Tu dois pas être le quatrième.
Ben, je dois pas être le quatrième. Oui et non. C'est souvent le dernier, le meilleur nageur. Mais c'est vrai que pour une expérience olympique, Fred Bousquet en a déjà deux dans les pattes. Il a 2000, il a 2004. Il a les relais aux États-Unis. Il a cette expérience internationale. Ça devait être Fabien en dernier. Ça devait être Amaury au départ, c'est lui qui a le meilleur départ, les meilleurs coulées, etc. Qui nage le mieux quand il n'y a pas de vagues. Enfin voilà, stratégiquement, ces deux personnes-là, et Fabien et moi au milieu, peu importe, deux ou trois. Mais on peut refaire le fil encore une fois, et je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ça fait partie des règles. En fait, on doit donner l'ordre du relais avant même les sessions des finales. Et une fois qu'on a donné cet ordre-là, on ne peut plus l'échanger. Et donc le responsable d'équipe qui a donné cet ordre, sur lequel nous n'étions pas...
Concertés.
Oui, on était concertés entre nous, mais la communication ne s'était pas bien faite. Il a mal compris, il a interverti les deux positions de Frédéric Bousquet, la mienne. Et voilà, on ne saura jamais si ça aura changé le résultat de 8 centièmes de plus, de moins ou une seconde et demie. Quoi.
Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de la boîte à souvenirs avec notre champion du jour, Alain Bernard.
RMC, la boîte à souvenirs...
Alain Bernard.
De retour dans la boîte à souvenirs avec Alain Bernard, notre champion olympique du 100 mètres. À Pékin en 2008, Alain, un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs.
T'inquiète pas, tu vas te régaler.
Qui dit ça?
C'est moi.
À qui?
Putain, vous étiez là, vous étiez partout, vous mettez des micros partout, c'est pas possible. J'ai dit ça en 2008, le 14 août, on va dire... Allez, à 4h30 heure française, une demi-heure avant ma finale. J'ai dit ça à Denis, t'inquiète pas, tu vas te régaler. Je raconte.
Tu vas pas raconter, c'est d'abord Denis qui va nous le raconter et puis toi tu pourras nous apporter autre chose. Tu l'as dit, nous sommes le 14 août 2008, 3 jours donc après cette médaille d'argent en relais. C'est la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Juste avant d'entrer dans la chambre d'appel, tu regardes Denis et tu vas lui dire ça.
On avait l'habitude de se dire un petit mot avant qu'Alain parte à la chambre d'appel. Donc, en gros, c'est 20 minutes avant l'épreuve. C'est un moment où on échange deux, trois petites choses. Moi, je savais ce que j'allais dire à Alain, sur quoi le recentrer. Et puis, Alain me regarde dans les yeux et me dit « T'inquiète pas, tu vas te régaler. » Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes qui ont déjà fait ça à leur coach.
C'est ça, juste avant de partir à la chambre d'appel. Non, mais en fait... J'étais tellement impatient d'y aller. Denis me dit « Allez, pense au départ, pense à ta reprise, pense à... » Et il voit que, même lui, je pense qu'il sent qu'il me donne beaucoup de consignes, en fait. Et c'est ça la difficulté pour les entraîneurs, c'est de donner des consignes pertinentes. Mais si tu dis « Pense à ton départ, pense à ta reprise de nage, pense à ton virage », enfin, le mec, tu l'as perdu, quoi, en 30 secondes.
Et mais donc, c'est du bluff ? C'est du bluff ou pas ? T'inquiète pas, tu vas te régaler. Ou t'es vraiment sûr de toi ?
Non, parce que... Je sais que je pourrais pas sortir de cette finale déçu quoi qu'il arrive, parce que je suis en pleine capacité de m'exprimer. Et si je suis battu par plus fort que moi, je suis tellement prêt à l'accepter que ça me désinhibe complètement. Eamon Sullivan est recordman du monde. Il a battu le record du monde en demi-finale la veille que j'avais rebattu entre-temps entre le relais et cette finale-là. Il est favori. Il nage 47-04. Je me dis, mais ok, c'est le nageur le plus rapide du monde. Ben voilà, je vais nager juste derrière lui. Mon défi, c'est de toucher devant.
D'ailleurs, Denis me raconte que c'est toi qui entres le premier dans la chambre d'appel. Histoire de dire, voilà, moi, je vais pas attendre, je vais pas me laisser envahir par le stress. Moi, je suis là et je vous attends.
C'est ça.
Tu vas monter sur le plot de départ. Le starter dit à vos marques. Mais là, il y a quand même énormément de stress. Là, tu te rends compte qu'il y a du stress. Ça se matérialise comment ?
Alors, ça se matérialise pile à ce moment-là. Tu as très bien décrit la situation. De la chambre d'appel jusqu'à la présentation des athlètes derrière les plots, etc. En fait, je me dis, mais c'est bizarre, mais je kiffe tellement ce moment, je me sens bien. Bien sûr, j'ai de la pression, bien sûr, j'ai une appréhension, mais je me sens pas débordé, je me sens vraiment en totale maîtrise. Et arrive ce fameux moment du départ. Donc, tu as le take your marks en anglais, et il y a deux secondes de temps de pause et le départ. Et alors là, en fait, mes jambes dansent le twist, en fait. Alors, je pense que c'est intérieurement, je ressens des tremblements des jambes. Je me dis, c'est pas possible, je vais pas tomber du plot. À ce moment-là, quoi, je ne suis pas entraîné 10 ans pour tomber comme une merde à ce moment-là, quoi. Et après, le départ est donné et les automatismes reprennent. Mais en fait, voilà, c'est tout ce stress qui normalement s'étale un petit peu pendant 20, 25, 30 minutes que j'ai ressenti en 2 secondes, en fait.
Ton plus grand adversaire ce jour-là, tu l'as dit, est australien. C'est Eamon Sullivan. Nous allons revivre avec toi ce 100 mètres. La course reine, c'est 47 secondes et 21 centièmes qui ont changé ton destin. Au commentaire sur RMC, Julien Richard, François Pesenti.
Et c'est parti. C'est parti pour cette finale du 100 mètres nage libre. Alain Bernard, comme à son habitude, un petit peu en dedans par rapport à Sullivan. Les deux hommes se mettent directement en action. Et Alain Bernard est directement sur la même ligne qu'Eamon Sullivan. Les deux hommes forts sont là, ils sont présents, ils sont côte à côte.
Ils sont quasiment à la même hauteur, plus 4 centièmes par rapport au record du monde. Ils accélèrent tous les deux, ça va se jouer entre les deux. Sullivan et Alain Bernard, ils sont au coude à coude. Rien ne veut lâcher. Alain Bernard semble prendre un petit avantage. Alain Bernard, Sullivan, Alain Bernard, Sullivan, Sullivan, Alain Bernard. Ils sont au coude à coude. Personne ne lâche. Attention.
Doucement, les gars.
Moi, ça me met les poils. Toi aussi, j'espère.
Ah, mais
non,
c'est le sport, quoi. C'est génial, le sport. Et en fait, d'en être l'acteur, en fait, pour je reprends souvent ça en exemple. Alors, c'est, je sais pas, c'est peut-être pas un mauvais exemple ou autre, mais là, quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 98, toutes ces liesses de gens qu'on voit dans la rue, cet engouement, ces drapeaux bleu, blanc, rouge de partout, cette fierté nationale. En fait, je me dis, il n'y a que dans le sport qu'on peut revivre des émotions comme ça. Et là, je me dis, ben, je suis l'un de ces acteurs qui a pu contribuer à un moment donné dans ma vie, à procurer cette joie, cette bonheur. Et ce moment ultime où quand tu soutiens une équipe, tu soutiens un athlète, tu penses à rien d'autre. T'as plus de soucis, t'as plus de problèmes. Je sais pas, en fait, t'es dans un tunnel, t'es dans un canal, t'es connecté et c'est juste extraordinaire ces moments-là.
C'est ce que tu dis à Denis Hauguin, t'inquiète pas, tu vas te régaler. Forcément, il s'est régalé, tu as tenu ta promesse et lui se souvient des tribunes.
Le fait de savoir qu'il a gagné 12-13 secondes avant tout le monde, c'est-à-dire qu'au 75 mètres, je sais qu'il a gagné. Je vois Alain nager, je vois Eamon Sullivan nager et Eamon, j'avais souvent vu nager pour cause. Et je sens qu'Alain est plus en ligne, maîtrise mieux les choses que Eamon. J'ai 12 secondes où je sais quand même être champion olympique avant tout le monde. Et ça, c'est un petit plaisir incroyable. Et j'ai l'impression que mes pieds ne touchent plus le sol, en fait. J'ai l'impression de marcher sur les coussins d'air. C'est assez particulier comme sensation, mais...
Et là, il a 12 secondes, mais ce qui est génial, c'est que... En fait, en vrai, il a 4 ans d'avance quand il appelle le DTN.
Non, il manque un peu de panache. Il aurait pu lui dire, t'inquiète pas, il sera champion olympique.
Il lui avait dit, il sera finaliste olympique. Mais je pense qu'il y a vraiment cru aussi, encore même avant moi, quand on parle de Saint-Raphaël, tout à l'heure, 2007, les deuxièmes performances mondiales, etc. On est en un an des Jeux. Denis y croyait quand même avant moi. Et en effet, ça faisait partie des consignes qu'il m'avait données avant la course en disant, Alain, si tu passes à 25 mètres de l'arrivée avec Eamon Sullivan, tu as toutes les chances de toucher devant, parce qu'on a analysé les courses d'Eamon Sullivan, on a analysé les tiennes, et on a vu que tu nageais entre 2 et 3 dixièmes plus vite que lui le 25 dernier mètre. Et donc, en arrivant là, bien sûr, je me sens coude à coude avec lui, et je repense à ce moment-là. Je me dis, putain, Denis m'a dit que si je passais avec lui, que j'avais encore de l'énergie, j'avais toutes les chances de toucher devant. Mais en fait, c'était pas vrai. Il me l'a dit bien plus tard. Et je dis, mais t'es un grand malade, tu m'as dit ça. Il me dit, ouais, mais en fait, vous nagez à la même vitesse, donc c'est pareil.
Faustine, c'est qui?
C'est ma femme.
Ta femme, depuis pas très longtemps?
Ouais, depuis un peu moins d'un an.
Voilà.
Ouais.
Alors, à cette époque, en 2008, ce n'est pas du tout ta femme, tu ne la connais pas. Tu vas la connaître bien plus tard, en 2015, je crois.
Oui.
Son regard sur ce 100 mètres, qu'elle a revu, forcément, Faustine.
J'ai vraiment l'impression que c'est une autre facette de lui que je ne connais pas. Moi, je suis arrivée 4-5 ans plus tard, cette période très médiatique. Et quand je regarde cette fameuse course que j'ai vue de nombreuses fois depuis, j'ai l'impression que c'est son double, mais c'est pas exact, c'est pas tout à fait forcément l'homme que je connais aujourd'hui. Je regarde avec un regard... en me disant c'est lui, puis en même temps, mais je pense que lui aussi doit ressentir ça, parce que c'est un peu une autre vie dans une vie, donc je pense que même lui, quand il se regarde, il doit peut-être se dire c'est marrant, c'est moi, mais en même temps j'ai, voilà, c'était partie d'une autre vie.
Elle a raison, c'est vrai que c'est une autre vie, et Faustine ne m'a pas connu en tant qu'athlète. Je pense pas qu'elle aurait pu accepter le rythme effréné que cela demande, parce que voilà, c'est tellement engageant en fait et chronophage comme vie que on peut pas le faire toute une vie. Franchement, voilà, 6 jours sur 7, 50 semaines par an, en fait, t'as pas de vie à côté. Enfin, c'est pas que t'as pas de vie, mais tu consacres ta vie à ça. Donc aujourd'hui, je consacre ma vie à elle, notre vie de famille et. Oui, c'est une autre facette de moi, en fait. Il y a eu le mois avant natation, le mois après, avec un entremêlage, en fait.
Mais là, tu te sens fort, ce jour-là, ce jour de 2008. Comme elle le dit, t'es une autre personne, quoi.
Ouais, mais je suis cette personne que je construis depuis des années, en fait. Enfin, j'arrive à m'exprimer. Donc oui, sur ce moment de finale, franchement, en fait, en arrivant, je touche le mur et je me dis, c'est super, j'ai gagné ma finale. Et en fait, 2-3 secondes après, j'ai dit, mais c'est la finale des Jeux, quoi, en fait. J'avais pris volontairement, essayé de prendre un peu de recul sur l'enjeu pour m'évacuer cette pression, en me disant, c'est la course de ta vie, si tu la fais pas bien, etc., tu en souviendras toute ta vie. Et en fait, voilà, j'ai pris du recul et finalement, tu vois, j'étais pas le meilleur, le plus rapide à ce moment-là, mais j'étais le meilleur sur cette course, en fait. Et peut-être un an plus tard, au championnat du monde, je savais que j'étais le meilleur intrinsèquement, mais j'étais battu par le Brésilien César Cielo. Et c'est ça, des fois, ça joue en ta faveur, des fois, ça joue contre, et voilà.
Alors, c'est une course absolument fantastique, mais malheureusement, les deux sœurs, Sandrine et Christine, les deux grandes sœurs, elles n'ont pas pu voir cette course. Pourquoi? Elles l'ont entendue, elles l'ont pas vue.
Ah ben alors nous, bizarrement, on ne l'avait pas vu en direct parce qu'on avait eu un souci technique dans la salle où on était.
On était dans le petit village de Châteauvieux et le maire du village avait décidé de mettre un grand écran sur la salle des fêtes à la mairie. Donc on l'a vécu en communion avec tous les châteauviards. Mais malheureusement, au moment où le 100 mètres s'est déroulé, on n'a pas eu d'image, on a eu que le son. Donc on l'a vécu un petit peu dans l'euphorie. Des gens présents qui écoutaient une radio parce que l'image n'était pas revenue au moment où il a plongé. Et l'image est revenue, il est sorti de l'eau. Donc des gens s'est dit, c'est pas noyé.
Donc c'est bon, nos parents ont eu raison de le mettre à natation, il s'est pas noyé.
T'avais pas les brassards en plus pour la finale.
Non, mais et c'est marrant, cette anecdote, ça c'est véridique. Je recroise un journaliste il y a 2-3 ans sur un événement, je crois que c'était le salon de la plongée. Et le journaliste vient se confier, il me dit, Alain, il faut que je t'avoue quelque chose. Dans ton petit village où tu passais tes vacances dans les Hautes-Alpes, Le jour de la finale, en fait, eh bien, c'est moi qui ai embranché le câble du vidéoprojecteur et les 300 personnes qui étaient réunies à 5 heures du matin n'ont pas vu ta course en direct. C'était à cause de moi. Donc, j'ai recroisé ce journaliste. Excuse-moi, j'ai oublié son prénom, mais bon, si tu nous entends.
Pas, on va le retrouver.
Ouais. Voilà.
Ouais, et puis, on va lui faire mal aussi. Parce que quand même, la famille n'a pas vu la finale d'Alain Bernard.
En direct, quoi.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Alain Bernard sur RMC.
Le crépuscule d'un dieu. C'est la une d'un grand quotidien.
La une de l'Équipe datait du 25 mars 2012, juste après les championnats de France à Dunkerque. Tu ne vas pas réussir à te qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres. Tu es en larmes quand tu quittes le bassin. Pourquoi ça ne marche pas ?
Ah, ça ne marche pas parce que je pense que j'ai été au bout, au-delà du bout du truc, quoi. C'est-à-dire que la préparation, c'était bien passé, on avait bien travaillé, mais bon, voilà, il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Le changement des combinaisons, le fait d'être un peu plus âgé, etc., d'avoir du mal à récupérer. En fait, je me qualifie pas en individuel au 100 mètres nage libre et au 50 mètres nage libre. Et là, en fait, comme le 50 mètres était après le 100 mètres, à la fin de la course, c'est Amaury Levaux qui touche devant. C'est Florent Manaudou qui touche deuxième pour un petit centième devant Fabien Gillot. C'est-à-dire que Florent Manaudou est qualifié aux Jeux Olympiques pour un petit centième et il va transformer cette qualif en titre olympique quelques mois après. Donc l'histoire est juste extraordinaire en fait. Voilà, un petit
clin d'œil. Ça se joue tellement à rien.
Un petit clin d'œil à Florent et voilà qui a eu cette chance et cette opportunité de par son travail, etc. Je ne dis pas que c'est que de la chance, loin de là. Mais voilà, Florent qui a su s'exprimer et nous surprendre tous. Donc, on est sur ces championnats de France. Et là, à la fin de la course, en fait, les gens comprennent, les spectateurs sur place comprennent que je ne serai pas qualifié en individuel. Et il y a une standing ovation de manière spontanée. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et quand on me demande quel est mon meilleur souvenir dans la natation, dans ma carrière... bien sûr, il y a les médailles, il y a les podiums, il y a les records, etc. Mais pour moi, ça reste l'un des meilleurs moments parce qu'il est spontané, ce geste. Il est sincère, il est authentique, il est inattendu et il est adorable comme geste. Une standing ovation, en fait, pour me remercier de ma carrière. Jamais j'aurais pu avoir ça alors que je ne me qualifie pas d'individuel.
La boîte à souvenirs avec Alain Bernard, c'est quasiment terminé, mais pas tout à fait. Car maintenant, Alain, nous allons sortir de la boîte.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Tu as encore un petit peu de travail, Alain, avec nous sur RMC pour ta boîte à souvenirs, car tu vas devoir répondre à certains de tes proches. On débute avec une question du pote, de l'ami d'enfance, Benjamin.
Eh bien, salut mon grand, salut Alain, c'est ton Avignonnais préféré. J'avais une petite question, tu sais que je viens d'acheter une maison et j'aurais aimé savoir quand est-ce que tu comptais me la faire survoler avec ton avion en espérant que ce jour-là il y ait un peu moins de mistral et qu'on ne soit pas obligé d'atterrir à 90 degrés par rapport à la piste. Je t'embrasse mon poulet, bye bye.
Oui poulet, bah écoute, je reviens voler avec toi, je t'emmène voler quand tu veux, mais tu avais pas fait le fier quand même hein, quand on avait volé avec ce vent de travers, ce fameux mistral autour du Ventoux, mais on se refait ça très bientôt.
Ouais, il m'a raconté l'anecdote, il était quand même pas très bien.
Hein. Il était en sueur le pauvre, franchement. J'ai dit, il fallait pas me battre quand t'étais plus jeune, voilà. Maintenant, je te le fais payer.
C'est le revers de la médaille. Autre question maintenant d'un autre ami, témoin de mariage, hein, c'est Julien.
Salut Alain, salut Ninou. C'est Jules, écoute, j'aimerais savoir quand est-ce que tu te décides à ce qu'on s'inscrive au championnat du monde de parachutisme, histoire qu'on gagne ensemble, quoi.
Là, c'est vraiment une grande gueule, ce corse. Il faut que vous l'invitez aux grandes gueules. Julien, championnat du monde de parachutisme, écoute, déjà, il faudrait qu'on s'y remette parce qu'on a passé la PAC ensemble, la progression accompagnée en chute avec Julien. On a passé ce brevet pour sauter tout seul en parachute. On avait passé une très, très belle semaine et on a des très beaux souvenirs. Mais bon, la dernière fois qu'on est monté pour sauter, tu m'as annoncé dans la voiture, après 2 heures de route sur 2 heures et demie, que t'avais une sinusite et que tu ne voulais pas sauter. Donc, j'espère que tu seras soigné à ce moment-là.
Pilote, tu sautes en parachute, tes activités sont nombreuses quand même aujourd'hui.
Oui, écoute, je peux faire un peu plus que ce que je pouvais moins faire avant, quoi. Mais non, le saut en parachute, j'ai fait une petite pause depuis, en fait, voilà.
Autre question maintenant de ton ancien agent, Robert Leroux.
Alors Alain, c'est Robert.
Le père.
Si tu n'avais pas été le grand champion que tu es devenu, est-ce que tu serais devenu œnologue, mon cher Sharky.
Alors, Robert s'est vraiment trouvé et reconverti dans une passion autour du vin, en fait, et dans le bordelais. Et il m'a vraiment, il me partage cette passion, ce qui est fascinante, en fait, avec, il a un vocabulaire très riche, en plus, pour, déjà dans le monde du sport, mais surtout pour décrire, en fait, les sensations gustatives du vin et tout ça. Donc non, je n'aurais pas été œnologue, tu le sais très bien Robert, moi ma grande passion ce sont les avions et j'aurais été, si j'avais pu et si j'avais cru en moi à cet âge-là, pilote de chasse.
T'as une cuvée spéciale je crois quand même pour parler de moi.
Ah oui, par contre il y a la cuvée spéciale, merci Robert pour cette belle cuvée. Pour les 10 ans de mon titre olympique, ils m'ont fait une cuvée avec le nom de la bouteille qui s'appelle Ex Voto Victoriae et 47-21. C'est quand même une cuvée
spéciale. Le chrono lors de la finale.
Voilà, le chrono de la finale de Pékin. Donc merci Robert pour ce cadeau et le partage de cette passion.
Ouais, il m'a dit que tu en avais encore beaucoup, donc n'hésite pas à nous en faire profiter. Bref, un message de ta sœur, l'une de tes sœurs, Sandrine.
C'est pas une question, c'est un message en fait. J'ai envie de lui dire qu'il continue à être comme il est et puis qu'il nous fasse encore plaisir et rêver. À passer des moments en famille, comme il sait le faire, avec son humour. Et pourquoi pas nous faire un bon petit plat dans sa future maison, là, où il vient d'aménager avec sa femme. Voilà. Non, c'est le message, c'est continuer à garder le contact qu'on a.
Oui, contact assez rare et chaque moment précieux. Merci Sandrine. C'est vrai qu'on est un peu à distance, mais pas très loin. On est à 200-300 kilomètres les uns des autres, donc on se voit pas très souvent entre ma mère, mes sœurs. Mais quand on se voit, voilà, c'est authentique et c'est simple et c'est juste génial. Donc oui, je te cuisinerai un bon petit plat. En plus, mon barbecue est neuf, il faut que j'inaugure, donc il faut que tu viennes.
T'es bien accroché Alain ? T'es bien assis ?
Allez, je suis assis. Qu'est-ce qui se passe ?
T'es bien assis. Un dernier message. Faustine, ta femme qui avait quelque chose à te dire, alors elle n'a pas voulu le faire en direct au moment où je l'ai appelée. Elle a préféré prendre un petit peu de temps et puis elle nous a envoyé ceci pour toi, Alain.
Bonjour mon amour, j'espère que tu passes un très agréable moment qui doit être sûrement plein d'émotions. Voilà, ce que j'ai à te dire, hein, tout simplement, c'est merci d'être à mes côtés et de toutes les façons possibles. Il y a Didi qui te dit merci aussi. Il n'y a pas un jour sans que je mesure cette chance. On a vécu tellement de moments forts, tous les deux, incroyables. Et je suis sûre que beaucoup d'autres nous attendent. Je sais que tu seras un père merveilleux. J'ai hâte de vivre ça avec toi, vraiment. Et je suis si fière de toi, je te le dis pas assez. Je suis fière de l'homme que tu es. Tu donnes tout, sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Tu veux juste rendre les gens heureux et tu y arrives. Voilà, je t'aime très fort et sache que je serai toujours là pour toi.
Et oui, et ça prend du temps de rendre les gens heureux, donc m'en veux pas, chérie. Ça prend du temps. Merci, mon amour, pour cette déclaration, c'est extraordinaire. C'est très touchant. Il y a même notre fille adoptive, en fait, ma fille adoptive, le chat, qu'on entend. Non, non, merci. Non, franchement, c'est adorable, c'est très touchant, c'est très émouvant. Voilà, merci pour m'avoir aidé à me canaliser, à maîtriser dans cette période où on s'est rencontrés, où on était un peu en quête de nous-mêmes, chacun de notre côté, aussi bien toi que de ce que tu m'en dis, aussi bien moi en fait. On avait en quête de repères et on s'est trouvé au moment opportun et on sera toujours ensemble, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, mon amour, merci.
Merci infiniment Alain Bernard pour cette merci. Émission La Boîte à Souvenirs. Ça a été un vrai plaisir d'être avec toi. Un grand merci également à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, pour son travail considérable à la réalisation. Kevin Pogam, Suzanne Folly. Alain, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi, face aux auditeurs. Merci encore Alain.
Merci à tous. Alors déjà, si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. J'en suis ravi et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Ma vie est ce qu'elle est, la vôtre est à construire au quotidien. Voilà, on en apprend tous les jours. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de partager ces moments de bonheur et de relever les plus grands défis de la vie, quoi qu'il arrive, que ce soit à travers le sport, dans la vie de tous les jours. Et merci pour votre écoute, merci à toutes les personnes qui ont participé aussi à la construction de cette émission, Fred, mes sœurs Sandrine, Christine, Benjamin, Denis, Julien, mon amour, Faustine. Et puis, hâte de découvrir cela sur les ondes. Merci encore, excellente journée à tous.